Mais je rappelle toutefois aux auditeurs que, juste après cette musique, nous allons faire le point sur l'opération enrôlement et identification des électeurs. Nous irons successivement à Matadi, à Mwanda et nous irons également à Kananga. Donc, vous pouvez nous appeler pour poser vos questions au 081 890 63 94 ou encore écrivez si vous êtes devant l'ordinateur ou encore devant votre machine. Écrivez action@radiocapi.net.
Baby, take me on a vacation. Mona na peki si na kulinga yo na pone lula liwe. Tokyo concerto na amor mangai. Me kako koma toka o koma na na kopo sa velo na yawa deni na. Mali na na besi nisa. Ila konyo sona ko imite kasi vale mani ko repo di na deta na yawa deni na.
Et basi ga hard sound ko ti yan
On va maintenant parler d'autre chose. On va parler de l'opération enrôlement et identification des électeurs. Cette opération se poursuit dans le Bas-Congo et en province orientale. Dans cette émission, nous allons faire le point sur cette opération, particulièrement à Mwanda et à Matadi, et nous irons également à Kananga. Mais pour commencer, rendons-nous à Matadi. À Matadi, sur fond de... Je vous le disais tout à l'heure, nous sommes maintenant à Matadi pour parler de l'enrôlement des électeurs dans le Bas-Congo qui entame aujourd'hui, vendredi, son 11e jour. Plus de 100 000 personnes ont déjà été enregistrées, mais de nouvelles difficultés apparaissent outre le problème évoqué la semaine passée, comme celui des centres d'inscription. Aujourd'hui, on signale la présence seulement d'une centaine, on pourrait dire d'une centaine de centres au lieu de 514 prévus dans toute la province. On apprend aujourd'hui que les gens commencent à faire fabriquer des documents d'identité et les présente au centre d'enrôlement afin d'obtenir une carte d'électeur. Alors Donna Madimba, notre confrère qui est dans le Bas-Congo, a suivi cette actualité pour nous. Bonjour Donna.
Bonjour Nicole Ngaka.
Alors pour commencer, parlez-nous en bref Donna s'il vous plaît, de ce phénomène carte d'identité.
Oui, c'est un phénomène qui a déjà pris une certaine ampleur ici à Matadi. C'est le marché des cartes d'identité, comme vous l'avez signalé déjà. Mm-hmm. Il s'agit essentiellement des cartes d'élèves, des cartes d'étudiants que les gens arrivent à se faire fabriquer auprès des dactylographes ambulants dans la ville de Matadi. Des cartes qui, pour la plupart, ne coûtent pas plus de 200 francs congolais pour être fabriqué, Nicole.
Ok. Nous savons qu'on avait également observé le même phénomène ici à Kinshasa, hein. Mais à Matadi, comment ça se passe exactement? Qui sont les précurseurs, si on peut le dire, de cette activité qui ont fondé ce marché de papiers d'identité?
Il faut déjà signaler que la vente des documents imprimés existe déjà depuis bien longtemps dans le pays, hein, même à Kinshasa, mais aussi ici à Matadi. En fait, ce marché permet aux gens, généralement, de se procurer à peu de frais des copies de certains documents officiels pour éviter généralement les tracasseries policières. C'est le cas des quelques duplicata et autres spécimens de documents. Mm-hmm. Mais là où ce phénomène commence à préoccuper, c'est lorsque ces documents qui ne sont pas officiels risquent de permettre à des gens qui ne sont pas en règle de se procurer un document crucial comme la carte d'électeur, car certaines personnes affirment, ça c'est seulement dans leurs affirmations, elles affirment qu'elles réussissent à se faire obtenir des cartes d'électeur. Mais ça c'est des affirmations qui restent encore à vérifier. Alors les personnes qui sont impliquées dans cette affaire, c'est, comme je l'ai dit, des personnes qui ont mis un service de dactylographie ambulant pour permettre à des gens de saisir des lettres rapidement, mm-hmm. de saisir des documents rapidement. Mais ces personnes aussi vendent des spécimens de documents, des petits cartons qui sont des spécimens de cartes d'identité ou de cartes d'élèves ou de cartes d'étudiants qui permettent comme ça à des gens qui ont besoin d'échapper à quelques contrôles policiers, de pouvoir les brandir et d'être très peu sagacés. Mais il s'agit aussi des personnes qui, ça peut être n'importe qui, ça peut être un monsieur, n'importe qui dans la cité, mais c'est aussi parfois des gens comme toi et moi, des gens qui n'importe ont peut-être qui. Un boulot, mais qui ont seulement besoin d'échapper à quelques tracasseries, et ils recourent généralement à ces gens au lieu de passer par le circuit habituel des communes qui prennent peut-être un peu plus de temps que ces dactylographes ambulants.
Oui, on a retenu que c'était n'importe qui pratiquait ce genre de travail, c'est-à-dire qui vendent des cartes d'identité de Naamadimba. On aura certainement à faire le point là-dessus avec notre invité de la CEI, hein, qui est déjà avec moi dans le studio et qui vous suit. Donc j'invite tous les auditeurs qui ont des questions à poser en rapport avec l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs. N'hésitez pas à appeler au 081 890 63 94 pour poser vos questions. N'hésitez pas non plus à agir directement sur Internet en écrivant action@radiocapi.net. Marcel Ngombo est là pour prendre toutes vos questions. En attendant, on va évoluer de Naamadimba. Comment avez-vous découvert en fait ce marché de vente de cartes?
Vous savez, on n'a pas, en fait, j'ai pas eu besoin de le découvrir en fait. C'est une chose qui est patente, une chose qui est visible, tellement habituelle et récurrente que parfois on ne se rend même pas compte que cette réalité existe. Vous savez, beaucoup de gens se surprendraient peut-être, mais beaucoup de gens aussi se retrouvent dans le fait que ces dactylographes existent partout, dans n'importe quelle ville de la République démocratique du Congo, je suppose, mais à Kinshasa, là où vous êtes, et à Matadi où je suis, on peut s'en rendre compte, des services qui apparemment ne représentent aucun danger au quotidien, mais parce qu'ils permettent à des gens d'obtenir des semblants de documents officiels, c'est là où le problème se pose. Alors, c'est tout simplement en passant ma route, comme d'habitude, en m'arrêtant un moment pour causer avec des collègues, des journalistes et des habitants d'ici, que j'ai pu apercevoir des gens qui imprimaient des choses de manière un peu plus vigoureuse et avec un peu plus d'enthousiasme qu'habituellement. Mm-hmm. Et lorsque je me suis rapproché et lorsque je me suis vu, je me suis mis à voir ce qui se passait, c'est alors à ce moment-là que j'ai constaté qu'il s'agissait plus des documents d'identité qui devaient être délivrés que d'autres choses qui sont généralement des papiers à faire saisir.
D'accord, merci beaucoup de Naamadimba pour toutes ces précisions. On va essayer d'entrer un peu plus loin dans ce problème avec notre invité qui est Monsieur Pascal Rukengwa. Il est responsable de la commission spéciale éducation civique et électorale. Il est aussi membre de la plénière. Merci Donna et j'invite tous ceux qui nous suivent à appeler pour poser vos questions. Appelez au 081 890 63 94. Allez, à la prochaine Donna Madimba.
Merci Nicole.
Okapi, c'est vous. Monsieur Pascal Rukengwa, merci d'avoir accepté d'être venu carrément ici au studio de Radio Capi et pour répondre surtout aux questions des auditeurs. La première question, c'est moi qui vous la pose, est de savoir aujourd'hui, vous savez qu'il y a un problème au niveau du Bas-Congo et particulièrement au niveau de Matadi. Vous avez suivi tout à l'heure notre confrère Donat Madimba qui a évoqué l'un des problèmes, c'est notamment le problème des cartes. Il y a un phénomène qui prend de l'ampleur, c'est le phénomène vente de cartes d'identité à Matadi. Alors comment pouvez-vous résoudre ce problème? Parce que vous savez que aujourd'hui n'importe qui, même s'il n'a pas la nationalité congolaise, peut avoir une carte d'identité avec la nationalité congolaise.
Bon, je voudrais dire deux choses. La première, c'est que la question de la carte d'identité en République démocratique du Congo et de la fabrication de différentes cartes ne relève pas de la commission électorale indépendante. Et je comprends que la population veuille bien déposer tout sous le dos de la commission électorale indépendante parce que pour le moment, c'est la commission la plus proche de la population et alors on vient tout déposer sous son dos. La question de la fabrication de cartes, de toutes les cartes ou de la falsification, je ne sais pas, de la contrefaçon, des documents est une question générale qui existe depuis longtemps et à laquelle nous, on s'attendait à faire face.
Et comment comptez-vous y faire face?
Nous, on compte y faire face. Et je voudrais qu'on reste dans le contexte de Matadi.
Oui.
À Matadi, il y a eu, je crois qu'il faut garder toutes les proportions, il y a eu quelques tentatives, étant dit que ça se passe sur toute la République, mais à Matadi, il y a eu quelques tentatives d'intensification de cette pratique, mais tout de suite, le bureau de la Commission électorale indépendante a été saisi et nous avons exigé des spécimens de la part de l'inspection de l'enseignement primaire et secondaire parce qu'il s'agit essentiellement des cartes d'élèves et désormais, on a attrapé beaucoup de gens avec des fausses cartes, de cartes où quelqu'un qui a 60, qui dit qu'il est né en 1962, mais qui est en troisième primaire, qui est en troisième secondaire. Donc, il y a des incohérences sur ces cartes qui ont permis d'attraper des gens. Donc, moi, je pourrais dire que ces problèmes sont en train d'être résolus. Et donc, pour nous, n'est pas un gros problème, mais surtout n'est pas un problème spécifique.
Mais il reste encore quand même. Je crois que le grand problème, c'est d'arriver à gérer toutes ces personnes qui vendent des cartes d'identité.
Là, nous sortons du domaine de la commission électorale indépendante. La sécurisation du processus électoral relève en fait du ministère de l'Intérieur, appuyé d'ailleurs par la MONUC. Donc, je pense que les autorités qui vous suivent, qui nous suivent, qui ont été contactées, savent cette pratique et depuis longtemps, donc tout a été mis en œuvre, en tout cas à Matadi, pour mettre hors d'état de nuire ces quelques aventuriers qui étaient en train de produire des cartes. Et donc, moi, je pourrais dire que c'est une question réglée.
C'est une question réglée, mais vous avez suivi tout à l'heure le point de vue de notre confrère qui est à Matadi. Selon lui, c'est pas encore une question réglée. Je ne sais pas si les auditeurs qui nous suivent à Matadi et qui vont nous appeler au 081-890-6394 sont tout à fait d'accord avec vous.
Oui, ils devraient être d'accord avec moi, mais ce genre d'action, on ne le fait pas en criant sur la rue. Hein. C'est des actions d'ordre, c'est des actions qui ont été menées. J'ai discuté avec le coordonnateur de la province du Bas-Congo ce matin. Il m'a rassuré que par rapport à cette question, les gens qui ont pour charge de s'en occuper maîtrisent bien la question et que ce n'est plus un grand problème.
Ok, on va évoluer. Aujourd'hui, combien de personnes se sont fait enrôler pour la ville de Matadi?
Je ne pourrais pas dire aujourd'hui parce que la journée n'est pas encore finie, mais jusqu'hier, on avait autour de 170 000 personnes enrôlées.
170 000 personnes. Alors, qu'est-ce qui est normalement prévu? On devrait arriver à quel nombre exactement?
Bon, j'ai le tableau et laisse-moi le chercher.
Oui.
Et donc, je crois que ça avance bien. Vous savez, le processus est un... Et donc, avance avec nos difficultés.
Oui.
Et on a parlé des Matadi.
Oui.
Là, j'ai le...
Avec 170 000 personnes enrôlées jusqu'hier, hein, jeudi.
Oui. 170 000 enrôlées. Écoute, on peut aller sur une autre question pendant que je cherche dans les tableaux, sinon on va...
Vous avez le temps de chercher, mais on va évoluer. Parce que nous savons que vous avez normalement prévu une centaine de centres. En fait, vous avez prévu 514 centres normalement pour la ville de Matadi. Et aujourd'hui, on ne constate qu'une centaine de centres qui fonctionnent normalement à Matadi. C'est qu'il y a un petit problème aussi à ce niveau.
Là encore, je crois qu'il faut garder les proportions. À Matadi, nous avons déjà ouvert des centres dans tous les chefs-lieux des territoires et dans quelques secteurs. Et c'est en train de s'ouvrir difficilement. Vous connaissez la problématique du déploiement du matériel, l'accès à certains endroits. Moi, je ne suis pas aussi précis que vous en disant 100. Non, chaque jour, on ouvre de nouveaux bureaux. Chaque jour, moi, je sais que tous les secteurs seront atteints maintenant, mais en tout cas, tous les chefs-lieux sont déjà atteints et à mon avis, ça avance bien.
Alors, vous avez finalement trouvé les chiffres? Vous devrez atteindre combien de personnes enrôlées normalement?
Oui, pour le Bas-Congo, on attend 1 597 705. Alors, pour Matadi, on attend. Un instant, je risque de me tromper là.
Oui, 1 500 097 personnes qui devraient normalement être enrôlées pour la province, hein, du
Oui,
Bas-Congo.
absolument.
Mais pour la ville, le Matadi, ce n'est pas encore précis.
Oui,
Hein.
ce n'est pas encore précis, mais je vous le dirai avant la fin de l'émission.
D'accord. On va évoluer parce qu'il y a beaucoup de questions qui arrivent et on doit aussi aller à Moanda. Hein. On va lire rapidement les questions qui nous viennent de Matadi à Monsieur Ngumba qui aimerait savoir. Il dit, nous ne savons pas quand est-ce que les jetons sont distribués. Certaines personnes s'en procurent aux heures tardives, 1h, 2h du matin, et pour nous qui travaillons, que devons-nous faire? Ça, c'est la première question qui nous vient de Monsieur Ngumba. Deuxième question. Oui. Deuxième question, elle nous vient de Lubumbashi, c'est Madame Astrid, qui dit, nous qui sommes en mutation ici à Lubumbashi, qu'allons-nous faire au moment du vote si nous ne sommes plus ici à Kinshasa, par exemple? Devons-nous encore prendre un avion pour aller voter à Lubumbashi? Ça, c'est, retenez bien la deuxième question de Madame Astrid. Et la troisième question, c'est de Monsieur André Kalonji. On va aller tout à l'heure à Kananga. Lui, il nous appelle de Kananga. Il dit, que prévoit la loi lorsque une personne est enrôlée mais n'a pas pu voter? Ça, c'est la dernière question. Donc, je crois que vous allez rapidement répondre à Monsieur Ngumba d'abord, qui lui aimerait savoir en rapport avec les jetons. Hein.
Oui, et la question de jetons est gérée dans les centres d'inscription. En fait, les jetons, c'est les papiers qu'on distribue pour que les gens entrent en ordre, pour que l'on sache que tel est arrivé avant tel ou tel autre. Il y a eu de temps en temps quelques tripotages de la part des agents de l'ordre, mais je crois que les jetons sont distribués.
1h, 2h du matin pour un jeton?
Non, les bureaux ne sont pas ouverts à ce moment-là.
Mais là, comment ils se procurent?
Les bureaux ne sont pas ouverts à ce moment-là. Je crois que là, il part de ce qu'on lui raconte, mais les bureaux sont ouverts le matin, c'est clôture le soir. Le matin, lorsque les agents arrivent, ils distribuent des jetons.
Mm-hmm.
C'est pas inutile.
Mais il faudrait quand même vérifier cette information, je crois. Hein.
Oui, on va la vérifier ensemble s'il le faut, mais à 1h, vous vous imaginez, Nicole, les bureaux ne sont pas ouverts.
Ok, hein? On retient cela, on va évoluer parce qu'on doit aller maintenant à Moanda où on va recevoir Jean Dombassi qui va nous faire également le point en ce qui concerne l'opération enrôlement et identification des électeurs. Bonjour Jean Dombassi.
Bonjour Nicole.
Alors on aimerait connaître quand même en rapport avec les conditions, est-ce que toutes les conditions sont réunies pour le début des opérations?
Oui, mais en retard, parce que à Matadi, ça, c'est aujourd'hui, c'est le 11e jour. Mais à Moanda, c'est le 2e jour. Ça n'a fait que commencer hier. Mais avant, c'est là, il y a eu trop de problèmes.
Lesquels, par exemple?
Les Moandais qui ont satisfait au test et qui ont suivi la session de formation ont été écartés injustement à la dernière minute au profit des 18 Bomatraciens qui sont arrivés par vedette mardi. Ça, c'est le premier problème. Deuxième, par contre, les Moandais qui ont reçu la liste ont été affectés à l'intérieur du territoire de Moanda sans ordre de mission, sans frais de mission, sans restauration.
Oui.
Ils sont à la charge des chefs du village. Pour quitter Moanda, les uns sont partis au-dessus des filles de carburant, embarqués gratuitement dans des gros véhicules de la SECO, l'association des chauffeurs du Congo.
Alors,
ça, ce sont des problèmes que nous avons enregistrés avant le début de l'opération hier. Mais il y a encore des petits problèmes qui sont là, que nous venons de constater aujourd'hui.
Lesquels, Jean Dombassi?
Bon, l'identification a commencé hier, ici à Moanda, et puis c'était vers 10h. Mais on se demande, y aura-t-il un report? Ça, c'est un. Et puis, il y a un problème de carburant. L'homme moandais, la plupart, possède des attestations de perte de pièces qui ne sont pas acceptées. Les journalistes ne sont pas acceptés dans des centres. Il faut avoir un macaron CI. Nous ne savons pas où s'adresser. Il y a une femme venue de Boma qui coordonne les choses ici. Elle est invisible. elle se camoufle derrière l'autorité. Et puis les femmes des militaires qui ont accompagné leurs époux, qui sont en brassage à Kitona, vont-elles se faire enrôler à Mwanda? Si elles le faisaient sur place, à la fin du brassage, leurs époux militaires seront affectés ailleurs. Que prévoit la loi?
Okay.
Donc la CI à Mwanda représente la misère et la pauvreté. L'homme qui est là doit nous dire qu'est-ce qui se passe.
Jean Dombassi, on aura à lui poser, c'est M. Pascal Rokengwa, hein, qui est en fait de la CEI, on aura à lui poser toutes ces questions-là. On va donc clore avec vous pour recevoir maintenant notre invité et aborder avec lui toutes ces questions. Merci beaucoup, hein, Jean Dombassi, pour cet éclairage. Alors, on se tourne à nouveau vers vous, hein, Monsieur Pascal Rokengwa. Vous avez suivi tout à l'heure le point que notre journaliste a eu à faire sur la situation, l'opération roulement identification des électeurs à Mwanda, votre réaction?
Bon, j'ai l'impression que là encore, il y a beaucoup trop d'attentes, un peu une vision, comment je vais dire, on attend trop de la CIA, c'est normal. Mais il faut rester le pied sur terre. Nous sommes au Congo, nous avons les conditions, les infrastructures que nous avons les conditions de communication que nous avons.
Les Mwandais écartés.
Voilà, j'en arrive.
Oui.
Regardez, il y a eu un premier test, un premier concours. D'abord, il faut distinguer les deux catégories du personnel des centres d'inscription. Il y a un personnel administratif, c'est-à-dire le président de centre d'inscription et les préposés à l'identification.
Oui.
Ceux-là n'ont pas besoin de connaissances techniques spécifiques. Il y a un personnel technique. Ce personnel technique, c'est ce qu'on appelle les OPS. Ces gens doivent connaître l'informatique et doivent être capables de produire une carte d'électeur en moins de 6 minutes. Mm-hmm. Sinon, on va avoir un délai d'inscription.
Mais il fallait prévoir cela avant.
Mais c'est ça que je suis. C'est de ça que je parle, Nicole.
Oui.
Alors, regardez, nous avons prévu cela. Ce test a été fait. Effectivement, quelques personnes ont réussi au test théorique. Mais il s'agit bien de la technique. Il faut passer devant l'ordinateur et pouvoir produire une carte. Une fois le deuxième test théorique qui se fait avant la formation, et c'est peut-être ce qu'il appelle formation, se fait, on a constaté qu'il n'y avait personne qui avait des compétences suffisantes pour mener à bien cette opération de saisie.
Ça, c'est lors de la deuxième étape. Hein?
Voilà, de la deuxième étape.
Oui.
Alors, Boma, c'est Boma qui gère Mwanda. Boma a dû prendre des mesures, sinon on ne commencerait jamais. Et il m'a dit, on commence il y a 2 jours. Mais oui, parce qu'il n'y avait pas, les éléments n'étaient pas réunis. Alors, le chef qui est à Boma a dû prendre la décision d'envoyer des OPS sur Mwanda.
Les OPS, c'est
les opérateurs de saisie.
Voilà.
Pour commencer l'opération identification et enrôlement. Nous, on a des exigences de résultats. Hein, on a des exigences, on a un défi, on doit commencer, on doit produire des résultats et dans un délai très, très court. Vous comprenez qu'on ne peut pas commencer à tenir compte du sentiment de chaque personne. On regarde ce qui est efficace. Y a-t-il des OPS? Il n'y en a pas. On fait venir des OPS.
Mm-hmm.
Alors, vous nous dites pourquoi on n'y a pas pensé. On y a pensé parce qu'on a trouvé des OPS.
Mais après, vous avez pensé après.
Oui, parce qu'il fallait respecter aussi les compétences locales.
Mm-hmm. Il y a eu d'autres problèmes qui ont été évoqués également par Jean Dombassi, notamment le problème des Mwandais qui ont réussi au test théorique, je crois, et qui ont été affectés dans les villages sans autre forme de procès, sans moyens.
Non. Là encore, c'est un malentendu. C'est parce que les gens disent ce qui est problème, mais ne disent pas leurs propres engagements. Lorsqu'on engage des OPS, on vous dit clairement qu'il y a des OPS qui vont travailler en ville et des OPS qui vont travailler en dehors de la ville. Et ces OPS qui vont travailler en dehors de la ville savent que c'est dans des conditions de la population, dans les conditions dans lesquelles vivent les électeurs en ces lieux-là. Et ils prennent les moyens.
C'est à eux de prendre les moyens.
Ah mais oui, qui va le prendre? Parce que vous croyez que nous avons suffisamment de moyens pour aller partout? Non, malheureusement. Nous avons des accords avec les églises, nous avons des accords avec divers partenaires, les acteurs non étatiques, pour nous aider en utilisant les moyens de transport que eux utilisent pour acheminer matériel et personnes. Parce que vous savez, la MONUC déploie les matériels jusqu'au chef-lieu. Du chef-lieu vers le centre d'inscription, même nous, on prend les moyens habituels.
Lesquels?
La pirogue, le bateau, le vélo, le pied, et tout ce qui existe.
Mais en ce qui concerne la prise en charge de ces agents recenseurs qui ont été engagés à partir de Moanda et qui sont envoyés dans les villages, pensez-vous qu'ils arriveraient à tenir sinon pas, s'ils ne sont pas pris en charge par la commission électorale indépendante?
La commission électorale indépendante a un déficit budgétaire, et vous le savez. La commission électorale indépendante informe toute personne qui est engagée des conditions de travail. Alors, les gens ont des attentes exagérées. Je pense que les gens ont des attentes exagérées. Il y a un montant qui n'est pas le même. On ne paye pas les OPS qui travaillent sur place de la même manière que les OPS qui vont travailler à l'intérieur. Donc, sur l'argent qu'on leur paye, il y a de l'argent ajouté pour leur séjour et pour leur vie.
Donc, avant d'aller dans ces villages où ils sont affectés, ils reçoivent un montant de la CEI?
Ah oui, bien sûr. Ils reçoivent un montant. Et puis, quand vous choisissez vous-même où est-ce que vous partez, nous avons souhaité que les gens partent dans leur milieu d'origine, parce que là, ils peuvent rencontrer de la famille, de gens qui peuvent les aider, parce que nous savons que les moyens ne seront pas aussi gros que les gens pensent. Le problème dans ce pays, c'est que quand on pense à la CI, et pas du fait qu'on entend des millions, on développe de rêves, on développe des attentes exagérées. Mais moi, je pense que par rapport aux engagements, la CI tient ses engagements, et toute personne qui vient travailler à la CI, il ne faut pas qu'ils viennent avec des idées, de rêves. Il n'y a pas de rêve à faire. Les conditions sont celles qu'on vous propose.
Beaucoup de gens vont se poser la question de savoir, vous savez, les auditeurs nous suivent partout au Congo, ils vous suivent, hein, Pascal.
Oui, merci.
Beaucoup vont se dire, mais est-ce que la CEI les a mis en garde au préalable? Est-ce qu'on leur a dit que vous irez en province, vous irez dans votre village, sachez que nous, on vous donne juste un montant, mais vous allez vous organiser vous-même pour tout ce qui est le reste de votre prise en charge?
Oui, je crois qu'ils le savent. Ils le savent. C'est-à-dire, les OPS, par exemple, parce qu'il s'agit des OPS, on ne déplace pas les autres. Les personnels administratifs, on prend toujours sur place. Mais comme sur place, on peut manquer des gens qui maîtrisent bien l'outil informatique, on ne déplace que les OPS. Alors, ils savent qu'en plus de l'argent qu'on leur paye journalièrement, on leur ajoute de l'argent pour leur séjour. Mais cet argent, ce n'est pas la banque tout entière qu'on leur donne.
D'accord.
Alors, ils doivent aussi compter sur l'appui de gens qui connaissent
sur terre. Quand vous dites que ce n'est pas la banque qu'on leur donne, vous avez une idée sur le montant qu'ils
reçoivent? Oui, j'ai une idée sur le montant, mais vous voyez, les montants payés aux gens, c'est toujours pas bien.
On peut avoir une idée sur ce montant?
Bon, c'est un montant bien.
C'est-à-dire?
C'est-à-dire un montant qui suffit pour vivre, et surtout dans le village, je crois que la vie n'est pas aussi chère qu'on le dit. Quoi.
Mm-hmm. On aura certainement à revenir là-dessus prochainement.
Oui,
en attendant, il y a beaucoup de gens qui réagissent et qui appellent au 081-890-7394, et notamment M. Olivier qui réagit sur vos propos. Hein. Il appelle de Moanda, il dit, vous dites que les gens de Moanda n'ont pas réussi au test, et pourtant, ce sont eux qui ont pu débloquer les machines de la commission électorale indépendante à Boma et à Moanda. Les gens de Boma n'ont pas pu le faire, il faut le reconnaître.
Bon, Nicole, on ne va pas faire la magie. Hein. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui a pu débloquer une machine. Ça, je ne suis pas sur place, je ne peux pas faire la magie.
Oui.
Mais je vous assure que les OPS qui ont satisfait au test ont tous été pris. Nous sommes dans une situation de nécessité. Nous cherchons des OPS. On en cherche.
Mais vous n'en trouvez pas.
On n'en trouve pas. Je vous assure que si la CI rencontre quelqu'un qui est capable de faire ce travail, elle s'empresse à le prendre parce que c'est plus facile pour nous d'avoir quelqu'un sur place. On le paye moins. Ça implique moins de problèmes de gestion, ça, on ne les déplace pas. Mais quand même, c'est raisonnable. Pourquoi on chercherait des OPS ailleurs alors qu'il y en a sur place?
Certainement que ces OPS, en fait, sont les opérateurs
de saisie.
Ils vous suivent. Je suis sûr qu'après cette émission, vous serez inondé au niveau de la commission.
Nous ne demandons que ça. Nous cherchons des OPS en province. Mm-hmm. Nous sommes en déficit presque dans toutes les provinces. Mm-hmm. En déficit.
L'appel a été entendu. Hein. Ouais. Mais en attendant, on va répondre à Mme Astrid, hein, quand même, qui avait eu à poser sa question en rapport avec la mutation. Je crois que vous vous rappelez de sa question. Vous voulez que je reprenne la question?
Oui, ça serait bien.
Mme Astrid, elle nous a appelé depuis Lubumbashi. Elle avait dit que nous qui sommes en mutation ici à Lubumbashi,
qu'allons-nous
faire au moment du vote si nous ne sommes plus ici à Kinshasa? Ça, par exemple, devons-nous encore prendre un avion pour aller voter à Lubumbashi?
Bon, s'ils sont munis de leur ordre de mission, s'ils sont en mission officielle, au regard de mesures d'application publiées par le bureau de la commission électorale indépendante, les personnes qui sont en déplacement de manière officielle et qui ont des ordres de mission peuvent obtenir l'autorisation de voter là où ils se trouvent, si ceci est fait de manière tout à fait officielle, c'est-à-dire en informant la CEI et en présentant leur démission au bureau de vote, voilà. Ils peuvent donc voter si ceci est tout à fait officiel. Mais si ce n'est pas officiel, la personne vote là où elle s'est fait enregistrer.
Donc, Madame Astrid, je crois qu'elle a suivi la réponse que vous avez donnée.
Oui, si elle a un ordre de mission, oui. Si elle a une mission officielle, elle pourra voter si elle rentre.
Alors, j'invite tous les auditeurs qui nous suivent partout au Congo de continuer à appeler pour poser les questions au 081-890-63-94. Pascal Rukengwa est là, il est justement de la CEI et il est là pour répondre à toutes vos préoccupations. On revient.
Je vous donne le nombre de Matadi.
Tout à l'heure, on reviendra dans ce studio avec vous. Mais on va d'abord faire une petite pause musique.
Ira Choma, le grand gérant. Tonton Darwin Izekola à Los Angeles. Charles Kondo, l'homme à la cage.
Olingo yoka, Bruno Dindou,
Voilà une chanson qui vous a certainement permis de retrouver un peu vos esprits afin de nous poser encore d'autres questions, toujours en rapport avec l'opération d'enrôlement et d'identification des électeurs, parce qu'aujourd'hui, nous recevons un invité de marque, c'est M. Pascal Rukengwa. Il est responsable de la communication spéciale éducation civique et électorale, membre de la plénière. On va évoluer, M. Pascal, parce que vous savez, tout à l'heure avec notre collègue de Mwanda, on a eu à relever plusieurs problèmes au niveau de la CEI. Il a aussi relevé, par exemple, le problème de carburant pour les appareils, les ordinateurs.
Oui, je crois qu'il ne faut pas éluder ce problème. Il y a un problème de carburant et notamment un problème de stock de carburant. Donc, il y a par-ci par-là des difficultés de stock de carburant et d'acheminement de carburant. Une fois de plus, ce problème est en train d'être résolu. Et c'est un problème général partout où on a besoin de carburant, que ce soit en province orientale, que ce soit. Et on a besoin de carburant et des solutions ont été trouvées pour acheminer du carburant. En ce moment, le carburant est en route vers les lieux où on en a besoin. Mais là encore,
le
nos responsables ont été, oui, il y a des problèmes de route, il y a des problèmes de stock déjà aussi. Parce qu'il y a des endroits où on n'a même pas de stock. On est en rupture de stock parfois même à Kinshasa. Alors, nos responsables ont été instruits de voir comment ils peuvent, auprès de Kadhafi ou je ne sais qui, trouver du carburant, pourvu que le processus avance.
Les difficultés sont énormes, hein?
C'est énorme, mais ce n'est pas lié à la CEI. C'est lié à la gestion même du pays. C'est lié à la réalité même du pays.
Hein? D'autres questions, d'autres problèmes qui ont été relevés tout à l'heure par Jean Dombassi, c'est en rapport avec, par exemple, le problème des journalistes qui ne sont pas acceptés dans les centres. On leur demande d'avoir une carte de la CEI, comme vous l'avez là, vous-même. Ils n'en ont pas, eux, des cartes de la CEI.
Non, en principe, il n'y a aucune difficulté pour avoir ce badge. Mais une fois de plus, il y a des problèmes d'acheminement du matériel, il est probable que là où il se trouve, les badges ne sont pas encore acheminés à cet endroit. Alors, ce que je vais lui demander, c'est un peu de patience, il aura le badge, mais aussi, je pense qu'il y a moyen de discuter avec les autorités électorales locales pour trouver un moyen, peut-être avec un badge fondé, là, fabriqué sur place, avec une signature du chef de bureau de liaison. Moi, j'ai vu ça en province orientale, où les gens ont fait des badges provisoires. Donc,
qui ont fait les badges provisoires? Les responsables de la CEI
oui,
sur place?
Oui, bien sûr, c'est une prérogative de la CEI, personne ne peut le faire pour lui-même. Mm. Donc il faut que nos chefs BL peuvent trouver le moyen. Ouais, ils peuvent trouver le moyen de le faire entrer dans le salle, donc ils peuvent leur signer un papier.
Mais c'est à vous de leur donner cette injonction.
Oui, absolument, absolument. Il vient de poser le problème. Et donc tout à l'heure, c'est pas moi le patron de la CEI, c'est l'abbé Magmal. Tout à l'heure, je vais rendre compte à l'abbé et je pense qu'il peut instruire les chefs de bureau de liaison de signer des petits papiers qui permettent aux gens d'entrer.
Alors, certainement que tous les journalistes qui nous suivent, notamment M. Mathieu, qui nous a appelé depuis Mwanda, qui dit, en fait, lui, il nous disait ceci, ce matin, on nous a refusé l'entrée au centre d'enrôlement pour un reportage. Doit-on avoir des macarons spéciaux pour des reportages au centre? Donc, vous lui avez répondu, certainement qu'une solution sera trouvée.
Il discute un peu avec le président du centre. C'est des petits problèmes qui peuvent se régler sur place.
Mais pas toujours. Hein. Si on relève ça, c'est que vraiment, il n'a pas résoudre le problème. Alors, on va terminer pour ce dossier Mwanda, notamment avec le problème des femmes militaires qui vont aussi se faire enrôler.
Ah oui. Et le problème serait de savoir s'ils ne sont plus là, comment ils vont voter, c'est ça.
Mm-hmm.
Bon, d'abord, il faut que ça soit très clair, les femmes des militaires sont des citoyens congolais, et des citoyennes congolaises et qui ne sont pas militaires, et donc elles ont le droit au vote. Et donc, elles se font enrôler, et si elles se déplacent, je crois que les dispositions, les mesures d'application relatives à des missions officielles peuvent s'appliquer aussi dans ce cas-là.
Ok, on va clore totalement ce dossier Bas-Congo, on va revenir en arrière, notamment en rapport avec les chiffres que vous avez donné tout à l'heure. Il y a des précisions maintenant?
Oui, les précisions, j'ai regardé dans mon tableau et donc à Matadi, on attend 120 227 électeurs.
Oui.
Et voilà.
120 207. Donc, tout à l'heure, vous nous avez 227. Dit que vous étiez à 170.
Ça, c'est pour 70. Toute la province.
Ah, pour toute la province.
Ouais,
ok. D'accord. Merci beaucoup, M. Pascal Rukengwa.
Je n'étais pas sûr sur les chiffres finaux parce que nous avons des gros problèmes à rassembler les données parce que les moyens de communication, vous voyez ça. Mais on doit être au-delà de ce chiffre maintenant.
Ok, on va évoluer parce que vous savez qu'on doit aussi aller à Kananga où les habitants attendent impatiemment l'opération enrôlement et identification des électeurs. On va aller juste après cette petite pause.
Surnommant 3.
Le Kasaï occidental attend avec beaucoup d'impatience le début des opérations d'identification et d'enrôlement qui commencent le 8 août prochain, c'est-à-dire le lundi prochain. À 3 jours du début de ces opérations, les populations s'interrogent si les préparatifs sont enfin prêts avant d'aborder cette étape importante pour les élections libres, démocratiques et transparentes. Pour parler de cette question, nous nous rendons à Kananga, au Kasaï occidental, où nous retrouvons sur place Julien Niamouni. Bonjour Julien.
Bonjour Nicole, bonjour à tous.
Alors, le Kasaï occidental attend le début de l'enrôlement et l'identification des électeurs à partir de ce lundi. Hein. Quel est l'état d'esprit de la population quand vous vous promenez dans les rues de la ville?
Écoutez Nicole, de manière globale, c'est la sérénité qui règne ici au Kasaï occidental, particulièrement dans la ville de Kananga où la population attend l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs. Une opération, vous l'avez dit, commencera dès ce lundi prochain, vous l'avez dit, mais l'ouverture officielle est prévue dimanche, d'après les derniers éléments d'information que nous venons d'avoir.
Alors Julien Niamouni, est-ce que tout est fin prêt dans l'ensemble de la province du Kasaï occidental?
Je ne pense pas que tout soit prêt pour le moment. Je crois que la CI, l'institution qui organise ces élections, doit mettre encore la main, la dernière main, sur plusieurs choses à la fois. D'après l'entretien que j'ai eu avec le coordonnateur provincial du bureau de la représentation de la CI ici à Kananga, il y a 48 heures, pour preuve, près de 15 tonnes de matériel sont arrivées depuis mercredi, parmi lesquelles les kits. Mais la distribution de ce matériel n'a pas encore commencé à Kananga.
Mmh. Alors, y a-t-il une explication en ce qui concerne la distribution du matériel? Pourquoi la distribution n'a pas encore commencé à Kananga?
Oui, Nicole, ce matériel devra être dispatché un peu partout à travers la province. Mais je constate que cela ne sera pas possible immédiatement. L'intérieur de la province devra visiblement attendre, d'autant plus que ce matériel n'a pas encore été déployé à travers les différents centres d'inscription. D'abord, dans la ville de Kananga, il faudrait attendre encore peut-être 48 heures d'ici dimanche pour voir comment cela va se passer. Il faut aussi noter que la MONUC qui est en charge, qui a la charge de transporter ce matériel jusqu'au niveau de chef lieu de chaque territoire ne l'a pas encore fait. Ce qui veut dire que si à Kananga ça peut déjà commencer, à l'intérieur on devra encore attendre un tout petit peu.
Alors en clair, Julien, parce qu'on va essayer d'aller plus loin, on va surtout essayer de résumer, y a-t-il encore des difficultés auxquelles, je dirais, les bureaux de recensement là-bas à Kananga devraient y faire face?
Oui, Oui, je dirais que oui, dans la mesure où la formation, le recrutement, le dispatching du matériel, donc des kits, tout cela arrive au même moment que le début de cette opération d'enrôlement. Vous comprendrez que ce n'est pas en un jour qu'on devra former les opérateurs des CSI dont le recrutement a continué jusqu'à hier. Une autre difficulté qu'il faut noter, c'est le transport du matériel des chefs-lieux de la province, je l'ai dit tout à l'heure, vers les chefs-lieux des territoires, de là vers l'intérieur de chaque territoire. Vous comprendrez que c'est tout de même périlleux. D'après certaines informations, il se pose un problème d'accessibilité dans certaines zones, notamment des Kessé, situées plus au nord des Kananga, une zone complètement enclavée. Il faut également dire ici que l'inexistence réelle ou supposée des routes constitue un problème réel pour régler tant soit peu cette situation. De motos et 13 vélos, sont déjà arrivés sur place à Kananga. C'est vrai que ce n'est pas suffisant, mais c'est quand même quelque chose. Ce sont donc des choses que la ville de Kananga devra utiliser dans un premier temps avant de penser à l'intérieur. Un membre du BFP disait qu'il y aura évidemment un autre lot, celui-là est le premier du genre.
Mmh. Alors, face à tout cela, que pense concrètement la population de Kananga?
Oui, je l'ai dit il y a quelques instants, la population de manière générale attend s'enrôler à partir de ce lundi. C'est vrai que l'opération peut prendre un peu du retard de quelques heures pour une raison ou pour une autre, mais les gens que j'ai rencontrés sont impatients et veulent que cela se passe bien. Et je vous propose un habitant de la ville que j'ai rencontré dans la rue. Il parle en son lit.
Mm-hmm. Comme vous avez eu à résumer ces propos, Julien Amoni, je crois qu'on pourrait peut-être l'écouter dans une autre émission, mais en attendant, on va évoluer dans ce dossier parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. On aimerait savoir, il y aura combien de centres d'inscription au Kassai occidental?
Selon les premières estimations, au total, près de 630 centres d'inscription ont été repérés, mais aux dernières nouvelles, nous apprenons que seulement 500 centres seraient retenus. On ignore pour l'instant dans quel territoire on a réduit et pour quelles raisons.
Mmh. Mais néanmoins, est-ce qu'on peut dire que l'adhésion est totale au Kassai occidental?
Ah, c'est tout à fait, c'est peut-être trop dire, parce qu'il y a quand même d'autres personnes qui demeurent sceptiques par rapport à l'organisation de ces élections. Je vous propose peut-être s'il y a possibilité au niveau du contrat.
Vous avez résumé ses propos. Vous avez résumé ses propos, Julien, parce qu'il faudrait que notre invité réponde à toutes ces questions, à tous ces problèmes. Un dernier mot peut-être, Julien, avant de joindre, avant de donner la parole à notre invité.
C'est cette invitation que le BRP, le bureau de représentation provinciale de la CI, lance en direction de la population du Kassai occidental à s'enrôler massivement pour une élection libre, démocratique et transparente.
Merci beaucoup, Julien Niamoni, pour toutes ces précisions. À la prochaine.
Okapi, pour que la paix ne soit pas qu'une belle vie.
Alors j'invite tous ceux qui nous posent des questions, n'hésitez pas, continuez à le faire. Si vous avez d'autres questions, surtout vous qui nous suivez maintenant à partir de Kananga, n'hésitez pas à appeler au 081 890 63 94. Arlette Kisevesa est là pour prendre toutes vos questions. En attendant, on va faire une fois de plus le point avec notre invité qui continue à être là dans ce studio avec nous, Monsieur Pascal Rukengwa. Vous avez suivi tout à l'heure l'éclairage qu'a eu à nous faire Julien Niamoni. Première question, votre réaction?
Bon, ma réaction est positive. Je trouve qu'il est plus objectif que celui de tout à l'heure.
Ah, ça.
Et bon, ensuite, je confirme que les opérations commencent plutôt le dimanche 7, pas le lundi 8. Donc, les opérations commencent. On les lance officiellement, elles commencent. Et on va commencer à Kananga et à Tikapa. Comme vous le savez, la méthode qu'on a choisie à la CI, c'est une méthode progressive, à cause du fait que le déploiement lui-même est progressif. Nous n'avons pas le moyen de faire autrement. Alors, on sait d'avance, ne posons pas de questions là-dessus, on sait que nous y allons progressivement, même par rapport aux provinces, on va progressivement.
Mais tout à l'heure, vous avez dit que vous y allez progressivement, c'est vrai.
Ouais.
Vous avez dit que l'opération roulement identification démarre le 7,
ouais,
donc dimanche.
Ouais.
Mais en suivant Julien, on a l'impression que rien... rien n'est fait jusque-là.
Non, c'est pas l'impression que j'ai eue. J'ai eu l'impression que beaucoup de choses sont faites. Et il a évoqué beaucoup. Mais je vous informe que les kits sont là. Les kits sont déjà sur place. Mm-hmm. Que depuis hier, on a commencé à former les contrôleurs et les superviseurs. Aujourd'hui, ce soir même, on va commencer à former les OPS.
C'est seulement ce soir que vous allez commencer à le faire?
Parce qu'il faut les recruter. Il faut les trouver. Je vous ai dit la difficulté qu'il y a à trouver les OPS.
Vous pensez pouvoir terminer à temps?
En fait, qu'est-ce qu'on fait? C'est juste les initier au... au logiciel.
Oui.
Ah, mais ne
craignez-vous pas qu'il y ait le même problème que vous avez eu à rencontrer à Mwanda?
Non. Là-bas, il y a quand même des OPS. Quand je dis ils vont commencer à être formés, ça veut dire qu'ils sont recrutés, tout est fini.
Sur place à Kananga.
Oui, les kits sont arrivés. Ils vont travailler sur les machines même qu'ils vont utiliser dans le processus. Donc ça ne prend pas beaucoup de temps. Les dimanches, ils seront prêts. En tout cas, on a déjà sélectionné 40 OPS pour commencer au moins dans 20 bureaux.
Oui.
Donc en ce moment, même si on commençait maintenant, 20 bureaux pourraient démarrer. Donc, bref.
Et pourtant, c'est pas le nombre qui est prévu par la CEI.
Non, c'est pas le nombre. Je suis en train de vous montrer que quand vous dites que rien n'est prêt,
oui.
Ça ne pourrait pas être, c'est justifié parce que même maintenant, 20 bureaux peuvent démarrer.
Mais ce n'est pas encore fin prêt.
Oui, fin prêt, ça ne peut pas être parce que le processus est progressif.
Mm-hmm.
On ne peut pas être fin prêt parce que là, dans certains bureaux, je viens vous dire dans 20, les
oui.
choses sont prêtes.
Oui.
Dans d'autres, elles sont en train de se mettre en place.
Mm-hmm.
Et ça va être comme ça jusqu'à la fin du délai imparti pour le CASAI.
Et le délai imparti pour le CASAI est de combien
de jours exactement? Donc, c'est normalement.
Comme à Kinshasa, à moins qu'il y ait une prolongation.
Non, à Kinshasa, c'était plus long.
Oui.
Donc, au CASAI, ça part du 7 août au 28 août.
Mm.
Et donc, ce délai-là, et ça avance, donc les centres d'inscription sont organisés. Par moment, on ne regarde pas ce qui est déjà fait. On regarde les problèmes et on s'accroche aux problèmes. Les centres d'inscription sont faits, les gens sont recrutés, et certaines personnes sont même déjà en formation.
Mmh.
Et les tests ont été faits, les kits sont là. La sécurité, quand un kit arrive quelque part, c'est toute une victoire. Ça veut dire qu'on a pu le sécuriser, qu'on a pu le transporter.
Mais vous savez, Pascal Rukenga, il y a quand même des problèmes qu'il ne faut pas non plus laisser tomber, qu'il ne faut pas ignorer. Il y a notamment le problème de l'inexistence réelle ou supposée des routes qui, mine de rien, constitue un réel problème dans la province du Kassai.
Absolument. Nous, on n'ignore pas ces problèmes. C'est pour ça que nous travaillons avec ces problèmes. Nous ne pouvons pas faire autrement que d'organiser les élections dans les délais constitutionnels. Et donc, on fait avec. J'ai entendu quelqu'un qui se plaignait pour être monté sur un véhicule où il y avait du carburant. Mais nous, on y monte. Le président l'a fait, il monte dans des hélicoptères, parfois sans... Non, mais on n'exagère rien. Sacrifions-nous tous pour relever les défis des élections. Tout le monde doit y mettre du sien.
Et pensez-vous qu'avec 2 motos et 13 vélos, comme l'a signalé Julia Niamouni, on pourra facilement
il ne faut rien exagérer. Ça, c'est ce qui est déjà arrivé. Et je ne peux même pas dire que c'est ce qui est déjà arrivé, c'est ce que lui a vu.
Mmh.
Et moi, je sais que le matériel, en tout cas à Kananga, on pourrait encore parler de Bujumbura parce que les matériels commencent par Kananga, mais en Kananga, les matériels sont en train d'arriver et ils arrivent. Je ne crois pas qu'ils auront de gros problèmes par rapport au matériel. Mais ceci dit, c'est vrai, nous n'aurons pas l'équipement de transport suffisant. On va devoir recourir aux moyens de bord, on va devoir collaborer avec les églises et toute personne qui peut apporter une aide. C'est clair, nous sommes tous Congolais, il n'y a pas de mythe là-dessus, on n'a pas de moyens de faire les choses 100% correctes.
Oui, mais enfin, vous savez, beaucoup de gens réagissent sur tout ce que vous dites. Vous dites que toutes les conditions sont réunies aujourd'hui à Kananga.
Les conditions nécessaires pour commencer sont réunies, pas toutes les conditions.
Ah, pas toutes les conditions. Heureusement que vous êtes d'accord avec cet auditeur qui nous a appelé depuis Kisangani, qui dit que, à mon avis, toutes les conditions ne sont pas réunies pour cette opération. Il y a des gens qui perdent, comme ça, des journées entières à cause du mauvaise organisation de la CEI. Comme les chefs de bloc connaissent les habitants du quartier, il serait mieux de les engager au lieu de tout le temps de renvoyer les gens pour aller chercher les témoins, chose encore plus difficile parce qu'il y a des gens qui ne disposent pas du temps pour ça. Donc le problème des témoins risque aussi de se poser au niveau de Kananga.
Je vais encore dire ce que je dis tantôt. Chacun doit y mettre du sien. Il ne faut pas aller en disant tout va se passer en rose. Chacun doit apporter des idées. Lui, il apporte une idée, ben on peut l'analyser. Mais je dis, à Kisangani par exemple, l'engouement était tellement fort que c'était de foule devant les centres d'instruction.
Mm-hmm.
Mais c'est une nouvelle expérience. Ce pauvre président de centre d'instruction se retrouvait devant une foule. C'était la première semaine. Bon, je crois que maintenant, ça changeait. Même lui, si je pouvais parler avec lui, il pourrait reconnaître que ça changeait.
Mm-hmm.
Ça s'organise progressivement. On a dit progressif.
D'accord. Alors, on va terminer, hein, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Bientôt, Adia sera là pour le bulletin d'information. Une toute dernière question, Pascal Rukengwa, et savoir à quand. En fait, moi, j'aimerais savoir, et les auditeurs aussi, j'imagine qu'ils aimeraient savoir, quand est-ce que va se clôturer l'opération d'enrôlement à Kisangani et à Mwanda, en fait, dans le Bas-Congo en général.
Oui, donc, dans le Bas-Congo, l'opération se termine le 14 août. Officiellement.
Mmh. Oui.
Mais vous savez, s'il y a des difficultés, peut-être que la commission électorale indépendante va décider de
rapidement.
De et dans le dans
la
les
province Kassai, orientale.
Dans la province orientale, c'est à la même date.
Le 14 août.
Oui.
Alors que dans le Kassai, l'opération.
Donc le Katanga, le Kassai oriental et le Kassai occidental, ça commence le 7 août, ça se termine le 28 août.
D'accord. Pascal Rukengwa.
Non, mais je voudrais quand même appeler la population à s'enrôler massivement.
Rapidement, hein, rapidement, on n'a plus de temps.
À s'enrôler massivement et à participer à cette opération qui somme toute est une opération salutaire, donc s'enrôler massivement, et c'est de Kinshasa, j'invite les acteurs non étatiques à commencer à préparer la population au référendum, parce que la phase suivante, c'est le référendum, donc commencer à expliquer à la population le projet de constitution, et voilà.
Merci beaucoup Pascal Rukengwa d'avoir répondu à toutes nos questions.
Merci.